France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, est-il possible de faire des mathématiques à la radio ? Lorsque notre cerveau pense aux mathématiques, il imagine aussitôt, de façon plus ou moins traumatique, des chiffres, des nombres, des équations, des signes kabbalistiques, des figures et des graphes, le tout écrit ou dessiné sur d'austères tableaux noirs. Autrement dit, il voit des choses, même si certaines de ces choses sont abstraites. Dès lors, une question se pose. Serait-il possible de faire entendre les mathématiques sans les montrer, par l'effet de la seule parole, par exemple à la radio, et par exemple tout de suite? La réponse à ces deux questions est oui, puisque je suis en face de Yann Prado. Bonjour Yann Prado.
Bonjour Étienne.
Vous êtes mathématicien, professeur, et vous venez de publier un livre qui s'intitule « Les mathématiques sont un tango à trois temps » qui vient de paraître aux éditions Flammarion. On dit parfois que vous êtes un pop mathématicien. Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est l'idée qu'on peut avoir des mathématiques, les voir partout autour de nous, dans un tango, dans une carte bleue. Donc cet aspect un petit peu comme ce qu'on a appelé la pop philo, hein, de dire que la mathématique est partout. Il suffit de les voir, il suffit de chercher à les regarder. Et d'ailleurs, puisque vous posiez la question, peut-on faire des mathématiques à la radio ? Bah déjà, écouter un tango, c'est peut-être commencer par en faire.
On va y revenir, mais dans ce livre donc qui s'intitule « Les mathématiques sont un tango à trois temps », vous écrivez cette phrase « Quand j'étais étudiant en mathématiques, je me désespérais de devoir suivre des cours de physique ». Comment avez-vous pu écrire cette phrase et en même temps vous présenter devant moi ?
Avec une honte toute bue et en même temps une sorte de joie un peu féroce, je me suis dit « ce sera l'occasion d'en parler ». Oui, je me désespérais de faire de la physique parce que, pour tout dire, ce qui me désespérait dans la physique, c'était non pas tant son objet, qui était de comprendre le monde, et ça, j'étais assez pour. L'astronomie m'avait emballé. C'était à partir du moment où il a fallu faire des maths en physique et que le professeur de physique a eu cette phrase mémorable qui m'a traumatisé. C'était le « on néglige ».
Je vois ce que vous voulez dire.
Voilà, on néglige. Et moi, d'un point de vue algébrique, j'avais du mal à négliger quoi que ce soit. C'est un petit peu le côté, vous savez, on garde toujours quelque chose qu'on met dans un tiroir et on se dit ça servira bien quelque part. Je me suis dit, le physicien, il veut pas ce tiroir, c'est ça.
C'était alors ça mon propos. Le mathématicien, il s'en régale.
Voilà, il garde tout.
Un physicien dont j'ai oublié le nom m'a dit qu'un mathématicien dont il avait oublié le nom avait écrit « La physique et les mathématiques sont deux disciplines séparées par un langage commun ».
Oui, c'est un petit peu, c'est un peu comme l'amour en fait. Un océan nous sépare, mais nous avons le même but.
Alors, enfin, vous êtes mathématicien, je ne le suis pas, mais je crois que nous avons quand même un point commun. Yann Prado, nous aimons tous les deux les jeux de mots à deux balles.
Ah ça oui, je crois que...
Il y a certains titres de vos chapitres qui illustrent parfaitement ce que je viens de dire. Par exemple, un de vos chapitres s'appelle « Il faut sauver le soldat Rayon ».
Rayon.
Plus vite que son nombre, nombre écrit avec un N. Des cartes sur table, voyage au centre de l'altère, j'en passe et des bien pires. D'où ça vous vient, ça, ce goût du...
Du jeu de mots pourri.
Du calunard atroce.
L'idée que l'existence est somme toute déjà assez triste si on en rajoute avec du sérieux. Donc, essayons de prendre les choses à la légère. D'autant que, je crois qu'il y a aussi une autre idée, c'est que ça dit des choses. Hein, derrière le jeu de mots, il y a quelque chose qui émerge de l'humour. Ça a une profondeur et une vérité un peu plus grande que, hein, il faut sauver le soldat Rayon, comme vous dites. Bah, c'est en référence évidemment au film de Spielberg, mais là, on parle du cercle, on parle d'astronomie, on parle du système de Ptolémée qu'on a essayé, justement, précisément, que Copernic a essayé de sauver le cercle. Donc c'était pas complètement idiot comme jeu de mots, en plus d'être bien pourri.
J'adhère à ce que vous dites. Le titre de votre livre, Les mathématiques sont un tango à trois temps. Tango à trois temps, est-ce que c'est pas une contradiction dans les termes ?
Alors, en fait, non. Parce qu'il y a des valses dans le tango. qu'on appelle le tango valse, ou la valse péruvienne.
Donc, oui, c'est quand même une variante...
C'est une valse, donc à trois temps. Mais parce que oui, l'idée du tango, c'est le pas martial, un peu, c'est une marche, donc c'est à quatre temps ou à deux. Donc,
entre
c'est,
deux, oui, deux ou quatre.
Voilà, deux ou quatre, puisque c'est une marche, et pied gauche, pied droit, donc c'est vrai que...
Vous avez fait une moyenne, en fait.
J'ai fait une... C'est le tango moyen, oui,
c'est... Alors c'est un livre vraiment savoureux que j'ai lu avec délectation. Il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'anecdotes, beaucoup de... Par exemple, vous posez un problème qui n'est pas du tout évident et dont la solution est vraiment contre-intuitive. On imagine une fourmi qui marche sur un élastique. Alors l'élastique a au départ une longueur de 1 km. La fourmi est à une extrémité de l'élastique et elle avance sur l'élastique à une vitesse de 1 cm par seconde. 1 cm par seconde par rapport à l'élastique.
Voilà, tout est là.
Et l'élastique, lui, il a une longueur qui augmente de 1 km par seconde, donc beaucoup plus vite que ne va la fourmi. La question est-ce que la fourmi va finir par atteindre l'autre bout de l'élastique ? Intuitivement...
On dirait non.
On dirait non. Et en fait, la bonne réponse, c'est oui.
La réponse est oui, parce que là, c'est Étienne, vous le savez mieux que moi.
J'ai fait le calcul.
Vous avez fait le calcul.
C'est pas trivial.
C'est pas trivial, mais c'est parce qu'il y a, je crois qu'il y a, c'est dans l'énoncé qu'il y a toujours, comme ce type de problème, il y a toujours un, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, et que dans l'énoncé, il y a un flou, et ça, c'est vous le physicien qui le connaissez mieux que moi, c'est que le mouvement est relatif, hein, il n'y a pas de repère absolu, et que donc, effectivement, quand on donne la vitesse de la fourmi, on ne précise pas par rapport, dans quel repère on la donne, et on se précipite
sur... Ah, si c'est par rapport à l'élastique.
Oui, ben, c'est vous l'avez précisé.
Oui, mais néanmoins, c'est contre-intuitif.
C'est contre-intuitif.
Est-ce que vous connaissez un argument qu'on puisse dire à la radio, donc avec sa seule voix, permettant de comprendre pourquoi, finalement... Alors, quand je dis finalement, c'est au bout d'un temps très long. Hein,
mais c'est justement
le calcul
là, l'argument.
Donne 8,9, 10 puissance 43 421 années. C'est beaucoup plus que l'âge de l'univers.
Beaucoup plus. C'est parce que la fourmi a un temps de vie quasi infini.
On suppose qu'elle se fatigue pas et qu'elle est immortelle.
Quasi immortelle et infatigable. Ah,
donc vous aussi, vous négligez des choses.
J'ai effectivement négligé ce petit détail quant à la vie de la fourmi, oui. Oui.
Un but partout.
Vous l'avez préparé de loin,
celle-là. Vous connaissez un argument qui permette de comprendre pourquoi la fourmi finit par atteindre l'autre extrémité de l'élastique.
Est-ce que je connais
Oui, est-ce que vous pouvez expliquer l'argument qui fait que ça converge?
Ah, alors c'est effectivement, je crois que c'est surtout, j'aurais tendance à vouloir expliquer l'argument à l'envers. C'est, qu'est-ce qui fait qu'on pense que ça diverge?
Allons-y.
Alors, c'est le dans ce chapitre, hein, le démarrage, la chose qui est très contre-intuitive, c'est que quand vous additionnez des choses de plus en plus petites, on a du mal à penser que ça tend vers l'infini. Et l'exemple dont est tiré ce jeu, cette énigme, qui est l'exemple de la série harmonique, en fait. C'est le pont de cartes, on ajoute une longueur à chaque fois plus petite que la précédente, et pourtant, on peut atteindre l'infini. Alors, c'est déjà une première chose qui est complètement contre-intuitif de penser qu'en ajoutant de moins en moins, on peut aller aussi loin que l'on veut. Ça, c'est contre-intuitif. Et l'exemple est là, enfin, l'explication se situe là. Mais parce que derrière, il y a quelque chose de sous-jacent, c'est que, certes, on peut atteindre aussi loin que l'on veut en ajoutant des quantités de plus en plus petites, mais ça va prendre énormément de temps. Et en fait, je crois que dans cet exemple, il y a l'idée qu'on n'a pas, qui est très peu sensitive, c'est que le logarithme croît très 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 lentement. Parce que c'est en fait, hein, c'est relié à l'histoire du logarithme là.
On se retrouve à la fin, en effet, avec des logarithmes.
Voilà, on se retrouve à la fin avec des logarithmes, mais c'est une fonction croissante, mais extrêmement faiblement croissante. Elle croît très très peu vite en tout cas, et qu'en fait, on est là dans ce cas de figure, tout comme on n'a aucune notion intuitive. J'ai l'impression que là, on va devoir rejoindre la biologie, c'est que le cerveau est pas câblé pour des phénomènes exponentiels ou logarithmiques. Qui sont liés l'un et l'autre. Ici, on a affaire à un phénomène...
Vous les câblez pourquoi ? Pour les phénomènes linéaires ?
Linéaires, beaucoup plus, oui. J'ai la sensation, hein, je ne suis pas un spécialiste, mais qu'on a des sensations correctes de phénomènes linéaires, mais que les phénomènes exponentiels et logarithmiques nous font tomber dans des contre-intuitions.
Yann Prado, vous aimez beaucoup donner des sortes de définitions mathématiques de certaines choses, par exemple de la ville de Paris.
Ouais.
Voilà la définition que vous proposez pour Paris. Prenez une ville de France, allez en centre-ville un samedi de mai et asseyez-vous en terrasse d'un café. regardez les gens autour de vous, soyez attentifs. Si au bout d'un quart d'heure, vous voyez la même personne une deuxième fois, c'est que vous n'êtes pas à Paris.
C'est déjà une définition négative.
Voilà. Vous aimez ça, c'est une façon de discriminer les choses.
Oui, j'aime beaucoup l'idée de discriminer avec des critères simples. Comme ça, je m'embarrasse pas l'esprit et ça me permet, parce que de toute manière, devant la multitude d'expériences que l'on peut vivre, il y a un moment donné, il faut choisir. Donc de cette manière, je propose que l'on choisisse simplement et presque sans engagement.
Il y a une forme de paresse intellectuelle chez vous, mais pas toujours. Pas toujours. Par exemple, vous expliquez comment on a pu découvrir l'existence d'une planète et démontrer son existence, donc grâce aux mathématiques, c'est la planète Neptune au 19e siècle. Vous consacrez un chapitre entier à cette histoire. Et c'est en effet une planète dont on a pu dire qu'elle a été découverte grâce aux mathématiques, mais en réalité, cette découverte s'appuie sur des lois physiques.
Oui.
En l'occurrence, les lois de la gravitation établies par Newton.
Tout à fait.
Et donc, c'est votre parti pris anti-physicien qui revient là. Vous faites comme si les mathématiques pures avaient trouvé la solution.
Non, c'est vrai. Je vous le concède. On marche main dans la main. Mais il y a un côté frères ennemis entre maths et physique.
Hein. Ouais, ça fait quand même 2-1, là.
Ah oui, d'accord, oui. Bon, c'est vrai que pour marquer des buts, la physique est beaucoup plus efficace que la mathématique. C'est vrai.
Alors,
je vais dire que c'est une activité de footballeur. Oui. Donc, alors c'est vrai que pour revenir sur Neptune, je dirais que les mathématiques sont venues suppléer à ce que la physique ne pouvait plus faire ou que l'observation directe ne permettait pas. Et donc Neptune a été deviné et confirmé par la mathématique, mais c'est vrai en se servant des lois de Newton, mais lequel Newton était aussi mathématicien et
mais la physique s'est vengée un peu plus tard avec la planète Mercure.
Oui,
puisque elle avait une trajectoire elle aussi légèrement anormale et les gens ont pensé que c'était la même recette qui allait fonctionner. Ils ont imaginé qu'il y avait une planète qu'ils ont baptisée Vulcain d'ailleurs.
Oui.
Qui expliquait le petit désaccord et puis en fait Vulcain n'existe pas et pour comprendre cette anomalie, il a fallu changer les lois de la gravitation. Et c'est Einstein qui s'en est chargé avec la théorie de la relativité générale.
Ouais, c'est pas qu'un peu.
Voilà.
Ok, bon,
j'allais pouvoir vous rattraper, Yann Prado, en nous expliquant comment est né le fameux X qui désigne dans les équations,
dans les équations
l'inconnu.
L'inconnu, puis plus que... C'est étonnant d'ailleurs à voir que la lettre X a fait florès, parce que porter plainte contre X, ça vient de là aussi. Bon, ne parlons pas des films du même nom, mais il y a des tas de choses pour X ou Y raison dans le langage courant, c'est ce X-là. Alors, d'où vient le X? C'est au début, c'est Diophante hein, qui a l'idée de remplacer une quantité inconnue par un mot qu'il appelle arithmos. La technique disparaît parce que quand le Moyen-Âge arrive en Europe, on coupe un peu les ponts avec l'héritage de l'Antiquité. Et ce sont les Arabes, les algébristes arabes, la période, ce qu'on appelle l'époque des traducteurs, qui en traduisant les textes anciens, les font revenir en Europe. Et alors, c'est donc Al-Khwarizmi qui baptise, lui, Arithmos, l'inconnu de Diophante, il la baptise Shay. Alors, romanisé en S-H-A-Y, ou Xé, hein, avec un X, qui veut dire la chose. Et la dernière étape, c'est quand Descartes franchit... Descartes ne décide pas ça tout seul. Il a auparavant François Viète, hein, qui a déjà, avec ce qu'il appelle... l'algèbre spécieuse, qui a déjà l'idée d'utiliser des lettres pour les quantités. C'est le début où l'algèbre ne ressemble pas encore à ce qu'on lui connaît, le plus, le moins, le racine carrée, la puissance. Mais les formes, il y a déjà une forme de ce calcul littéral qui arrive. Et donc François Viète qui précède Descartes, et Descartes enfonce le clou en disant le xé d'Al-Khwarizmi, je le simplifie en le x. Et donc le x... le Y, le Z, qui sont traditionnellement réservés aux inconnus, A, B, C, qui sont réservés aux quantités non pas connues, mais qui ne varient pas et qu'on ne cherche pas.
Donc voilà. C'est le résultat d'une très longue histoire.
C'est ça, c'est une très très longue histoire. On oublie souvent que la mathématique a une longue histoire et que très souvent, Ce sur quoi on peine, hein, que ce soit en tant qu'élève ou même à comprendre, et ce qu'on disait tout à l'heure sur le logarithme et ce sur quoi on peine, ce sont des concepts mathématiques qui ont mis longtemps à émerger et sur lesquels les mathématiciens se sont longtemps interrogés. Alors, tout à l'heure, puisqu'on parlait de ces quantités infiniment petites que l'on ajoute, c'est le calcul infinitésimal et sur lesquels physiciens et mathématiciens, les deux étant souvent les mêmes, se sont rencontrés, hein, ces fantômes des quantités évanescentes, telles qu'on les appelait. Et qu'est-ce qui se passe quand on ajoute des choses de plus en plus petites? Il s'avère que là, effectivement, ça diverge, c'est-à-dire que ça tend vers l'infini. Et Euler, lui, par exemple, a résolu le célèbre problème dit de Baal, c'est qu'il a bien ajouté aussi des choses de plus en plus petites, mais plus petite au carré, c'est la somme des 1 sur n2 par rapport à la somme des 1 sur n, et la somme des 1 sur n2, il a montré que là, ça convergeait. Donc, à un moment donné, quand on ajoute des choses de plus en plus petites, mais suffisamment petites, ça va finir par converger. Donc, il y a du grand petit et du petit petit, d'une certaine manière.
Il y a plusieurs façons d'être petit.
C'est ça.
Alors, quand on est élève, alors je ne sais pas en quelle classe, mais on finit par découvrir que 0,999 avec des 9
à l'infini,
ça vaut exactement 1. Et ça suscite à chaque fois un trouble.
Oui.
Et comme on ressent un trouble, on se dit, mais si je comprends pas, c'est que je suis pas un bon élève ou pas un bon mathématicien. Est-ce que vous, en tant que professeur, vous avez une méthode simple, au-delà de la démonstration, pour convaincre vos élèves que cette égalité est vraie?
Oui.
Quel est-il?
Alors, on va partir d'une égalité qui, par ailleurs, ne suscite aucune remarque. C'est 1 tiers égale 0,333. À l'infini, vous écrivez 3 petits points. Le diable est dans les 3 petits points, par ailleurs. Donc, cette égalité ne suscite aucune remarque. Et vous multipliez par 3 des deux côtés, en répétant, vous savez que l'on peut multiplier une égalité par la même quantité des deux côtés. Cela ne change pas la valeur de l'égalité. Donc, vous multipliez par 3. 3, ça fait 3 fois 1 tiers à gauche et 3 fois 0, 3, 3, 3, 3 petits points à droite. 3 fois 1 tiers, ça fait 1. Et 3 fois 0, 3, 3, 3, ça ne choque pas non plus que ça fait 0,99, 9, 9, 9, 3 petits points. Et là, on y arrive et ça choque quand même parce qu'on ne voit pas où est le loup.
Ça vient de l'écriture initiale.
Ça vient des 3 petits points.
Voilà.
Les 3 petits points contiennent l'infini.
Et comment est-ce qu'on peut retomber sur ses pattes et comprendre de façon vraiment rationnelle d'où vient cette égalité?
Il y a, selon un petit peu les capacités, il y en a plusieurs. Alors, il y en a une qui est aussi intuitive, mais qui quand même joue sur ce loup. Alors, reprenons le 0,9999. Appelons le X, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure. Il faut bien qu'on s'en serve. Appelons le X. Et qu'est-ce qui se passe si vous multipliez par 10? Dans un système en base décimale, le 0,9999 devient 9,999. Donc, on a que 10x est égal à 9 plus x. Et on a une équation. Et en la résolvant, vous trouvez que la solution unique de cette équation, c'est x égale 1. Donc, on est retombé d'un point de vue algébrique cette fois sur cette même égalité. Mais ce qui tend à montrer que ce concept aussi simple et évident on ne questionne jamais celui de nombre, est en fait un concept à multiface. Il y a le nombre qui mesure, le nombre qui compte, le nombre qui est solution de l'équation, et il y a le nombre qui est au bout. Et donc là, ici, le 1 est au bout du 0,9999 à l'infini.
Donc un même nombre peut s'écrire de deux façons différentes.
D'une part, et surtout un même nombre peut être pensé de plusieurs manières, parce qu'il remplit différentes fonctions.
Et comment est-ce que vous expliquez, Yann Prado, à vos élèves que la valeur d'un chiffre dépend de la place qu'il a dans un nombre? Par exemple, si j'écris 111, le premier 1 vaut 100, le deuxième vaut 10, le troisième vaut 1. Ça trouble.
Ça trouble, hein, c'est qu'effectivement, le système décimal est positionnel. 2, 1, c'est pas la même chose que 1, 2, 21 et 12. Et c'est toute sa puissance, c'est que selon l'endroit où le chiffre se place dans le nombre, il va incarner une autre quantité. Tout à fait. C'est long, en général, les élèves se posent pas tellement la question, d'ailleurs. Donc, l'idée, en fait, si on prend le 1, qu'est-ce qui représente ce 1 si on le débarrasse de la place où il se trouve, c'est-à-dire en tant qu'unité, en tant que dizaine? Alors, en tant que chiffre, on voit que c'est un symbole d'écriture, mais qu'est-ce qui représente sinon? Alors, une première réponse que je peux donner, qui est une réponse, je crois que c'est à Husserl qu'on la doit, hein, c'est que c'est l'idée de, par exemple, le 3 représente, est une sorte de représentant de toutes les tous les ensembles à trois éléments. C'est un principe de classe d'équivalence, donc que ce soit trois verres, trois bouteilles, trois amis, trois minutes, c'est le même 3, parce que tous les ensembles qui contiennent trois éléments ont en commun ce 3, que l'on peut extraire, en fait, c'est une abstraction que l'on peut extraire.
C'est ce qu'on appelle le cardinal de l'ensemble.
C'est le cardinal de l'ensemble. Évidemment, on sait que dès que ça va être infini, on va se poser des gros problèmes. Mais voilà, on extrait le cardinal de l'ensemble et on dit tous ces ensembles ont en commun. Et on ne s'intéresse plus à la qualité, mais on s'intéresse à la quantité.
Petite question, Yann Prado. Parce que finalement, faire des mathématiques à la radio, c'est demander à l'animateur que je suis de poser des questions à l'élève que vous êtes, en inversion des rôles. Hein. Est-ce que vous pouvez me démontrer que le volume d'une pizza est égal à pizza ?
Ouais, je peux.
Faites-le.
Alors, on considère qu'une pizza, c'est une forme, c'est un cylindre. Donc un cylindre, ça a trois dimensions.
Très aplati quand même.
Qu'est-ce que aplati ?
Tout est relatif.
Tout est relatif, n'est-ce pas ? Alors, donc, pizza, c'est un cylindre qui a donc une épaisseur, on va l'appeler petit a, et puis qui est constitué, donc un cylindre, hein, c'est un cercle, la base est circulaire, donc l'épaisseur est petit a, et le rayon du cercle, on va l'appeler petit z. Alors, quelle est la surface de ce cercle, hein ? C'est pi fois z au carré. Quel est le volume du cylindre ? C'est pi fois z au carré fois l'épaisseur petit a. Maintenant, si on n'a pas sous la main de quoi écrire avec des puissances et puis la lettre pi, si on a un système, un clavier très très réduit, on va écrire que pi, ça s'écrit pi, et que z au carré, c'est z fois z, et comme on sait qu'en mathématiques, on n'a pas besoin de mettre le symbole de multiplication dès lors qu'on utilise des lettres, on a pi fois z fois z fois a, ça fait pizza.
Donc le volume de la pizza est égal à pizza.
Est égal à pizza, c'est une sorte de point fixe.
Mnémotechnique, c'est commode.
Extrêmement efficace.
Voilà. Et on peut aussi, Yann Prado, faire des mathématiques avec son portefeuille.
Oui.
En sortant sa carte bleue, sa carte vitale.
Ce que je vais faire là, ce que je suis en train de faire à ce moment-là, et puisque vous parliez de faire des mathématiques à la radio, faisons-le. Nous avons une radio.
Alors déjà, moi je remarque que ma carte vitale, comme la vôtre d'ailleurs, a la même forme,
oui,
le même format, comme on dit, que la carte bleue. Le format d'un rectangle, c'est le rapport entre la longueur et la largeur.
Voilà.
Alors, elles ont toutes le même format, ces cartes.
Donc, elles ont le même format, on constate, hein, et puis j'ai essayé, le passe-navigo aussi. Donc, vous pouvez prendre la carte de cantine que vous utilisez habituellement, ça marche, j'invite les auditeurs à me suivre. Donc, vous prenez votre carte bleue, vous prenez votre carte vitale ou tout équivalent du même format, et vous placez côte à côte ces deux cartes de manière à ce que l'une soit à angle droit de l'autre, une sorte de L un peu épais.
Donc une qui est horizontale et l'autre verticale.
Voilà, et sur la même ligne, donc la longueur de la première est prolongée par la largeur de la seconde. Donc on a comme ça deux rectangles à coller. Et si vous, avec un stylo, là j'ai mon stylo Bic, et si vous prolongez la diagonale de la carte horizontale, qui se trouve horizontalement, si vous la prolongez, vous tombez sur le sommet, sur l'un des sommets de la deuxième carte.
Donc là, cette droite, elle passe par...
Voilà, cette droite passe par trois points. Ce qui est un phénomène en mathématiques toujours étonnant, parce qu'une droite passe naturellement par deux points, mais pas par trois. Quand ça passe par trois, on se pose des questions. Pourquoi ? Et j'invite les auditeurs à le faire, à tenter l'expérience avec des feuilles A4 pour se rendre compte que ça ne marche pas. C'est que donc le format contient, si ça marche avec ces cartes-là, donc avec ce format-là, mais pas avec les formats A4, c'est qu'il y a quelque chose qui est inscrit dans ce format. Ce format,
il y a un loup,
il y a une particularité. Quel est ce format ?
Est-ce que le format des cartes bleues ou des cartes vitales a été choisi pour que cette propriété soit observée ?
Alors là, j'avoue que j'ai pas la réponse. J'aimerais bien.
Ils vont combien ce format ?
Alors voilà, mais déjà en tous les cas, et on montre, et je montre dans le livre que ce format, c'est 1 plus racine de 5 sur 2, que tout rectangle dont le format grand L sur petit L, c'est-à-dire longueur divisée par largeur, obéit à cette caractéristique, à savoir qu'en prolongeant la diagonale de la première, on obtient le sommet de la seconde. Eh ben, c'est 1 plus racine de 5 sur 2, plus connu sous le nom de nombre d'or. Donc, je pense que le nombre d'or pour la carte bleue, c'est peut-être là la raison. On s'est dit, hein,
c'est la gold. C'est pas exactement le nombre d'or.
Alors, c'est pas exactement le nombre d'or.
C'est 1,6.
C'est une approximation, parce que si c'était exactement...
Mais vous aussi, vous faites des approximations.
Oui, je fais, mais je raisonne sur des idéités.
Ah voilà, l'argument qui tue.
Je raisonne sur des concepts. Est-ce que, quand on parle du triangle d'ailleurs, est-ce que le triangle existe? La droite, c'est une approximation, son dessin, puisque une droite n'a pas d'épaisseur et quand on la dessine, elle en a une. Donc on est en train de, donc on s'appuie sur des approximations pour pouvoir penser.
Bon, revenons à la carte bleue.
Donc on revient.
D'où vient la magie qu'on attribue, le halo symbolique extraordinaire qu'on attribue au nombre d'or?
Alors, il y a, je pense, pour deux raisons. Il y a le premier, c'est que c'est un nombre qui en soi a des propriétés assez extraordinaires, que l'on retrouve dans plein de lieux et de manière tout à fait sans chercher à l'y mettre. Donc ça, c'est la première chose. Plus racine de 5 sur 2, qui est solution, on l'appelle phi en référence à Phidias, et c'est phi carré égale phi plus 1. Donc il y a deux nombres qui sont solutions, c'est 1 plus racine de 5 sur 2, le nombre d'or, et 1 moins racine de 5 sur 2, le nombre d'argent. Voilà, que l'on appelle, donc les deux sont liés. Et on trouve un certain nombre il y a des propriétés, dont celle que je viens de montrer, entre guillemets. Maintenant, il y a aussi l'histoire et l'histoire des hommes. Et dans ce moment troublé de l'histoire européenne, est revenue cette idée que, ou est plutôt a été instillée cette idée qu'il y aurait une clé numérique de l'harmonie. Et que les Grecs possédaient cette clé, le savoir des anciens, c'est un petit peu l'idée que l'on retrouve aussi dans certains livres de science-fiction, le savoir des anciens. La Grèce antique, un savoir sur le pur et qui dit des choses sur le monde, puisque l'un des credos de la secte pythagoricienne, qui était une secte, c'était le monde est nombre, donc tout peut s'expliquer par le nombre. Alors donc, avec cette idée que les Grecs avaient touché une sorte de vérité, une sorte de pureté harmonique et avaient pu mettre en équation le beau, est apparue cette idée que ce savoir qui a, je me coupe un peu, c'est la thèse que du Da Vinci Code, ni plus ni moins, qui est une sorte de savoir, de crypto-savoir, un savoir caché, qui n'a jamais disparu, mais qui a été maintenu secret, et que pénétrer les arcanes du nombre nous permettrait de comprendre qu'est-ce qui fait que quelque chose est beau et de quelque chose qui ne l'est pas. Donc ça, c'est apparu en Europe au XXe siècle, à un moment où l'Europe était très troublée, puisque c'est l'entre-deux-guerres, et c'est le prince Matilda Gicca qui a écrit, qui a propulser le mythe du nombre d'or tel qu'on le retrouve maintenant, à savoir qu'il suffit de regarder le Parthénon pour le retrouver. Malheureusement, il y a un petit hic, et là, on va dire, puisqu'on fait des approximations...
Vous aussi.
Moi aussi. Il s'avère qu'il y a une approximation qui est quand même très très utile, c'est que diviser une feuille en deux, puis recommencer, alors en la pliant par exemple, dans le sens de la longueur, une feuille à quatre, et puis vous recommencez, et puis vous recommencez. Donc vous l'avez divisé en huit, puis ensuite faites la même chose dans la largeur, et vous la divisez en huit, et vous avez un rectangle divisé en huitième. Et en fait, il s'avère que 5/8, 13/8, c'est très très proche du nombre d'or, que 5/8 est très proche du nombre d'argent, et qu'en fait... la fameuse spirale de Fibonacci, que l'on retrouve sur le Parthénon, expliquée par les gens qui veulent nous montrer que le nombre d'or a été à l'origine du Parthénon. Ce qu'il en reste.
Ce qui reste du Parthénon, pas du nombre d'or.
Oui, pas du nombre d'or, ce qui reste du Parthénon. On peut donner exactement la même explication avec le rectangle que je viens de proposer, c'est-à-dire en le divisant en huitième. Et divisé en huitième, c'est-à-dire en deux et en deux, c'est extrêmement simple. Même à vue de nez, ça se fait. Alors que divisé en nombre d'or, ça devient, même à la règle au compas, c'est un petit peu plus ardu. Donc, moi, la thèse que je soutiens un petit peu, c'est que vous réécrivez tout ce qui a été écrit sur le nombre d'or dès lors qu'on est rentré dans la mystique du nombre d'or et vous remplacez par les huitièmes et on a la même chose.
Ouais, ça casse un peu l'ambiance quand même.
Ça casse le mythe.
Yann Prado, quand j'étais enfant, je pensais qu'un nombriliste était quelqu'un qui aime les nombres. Donc j'aurais dit de vous, parce que vous semblez aimer les nombres. Mais vous avez une définition, plutôt une méthode que vous proposez pour mesurer l'égocentrisme d'une personne. Alors cette méthode est la suivante, vous choisissez un compagnon de discussion et vous vous munissez d'un chronomètre. Vous lancez un sujet, n'importe lequel, le plus éloigné possible des centres d'intérêt de votre partenaire de parlotte, et vous chronométrez. Vous mesurez le temps qu'il faut avant qu'il ne commence sa phrase par « je ».
Voilà. Et si c'est moins de 15 secondes, vous avez affaire à un égocentrique bien, bien normé.
Et vous l'avez testé ?
Oui.
Mais c'est ça qui a révélé que la personne en question était égocentrique, ou vous saviez qu'elle était égocentrique ?
Voilà. Alors, il a bien fallu valider l'outil en testant sur des personnes qualifiées d'égocentriques pour voir. Là, c'est la période de calibrage.
Heureusement que c'est moi qui pose la question. C'est pas vous. D'où vient ce que la racine carrée de 2 gagne à être connue ?
Alors oui, la racine carrée, moi, c'est un irrationnel qui m'émeut, j'avoue, précisément pour cette raison-là, parce que, alors, pi est le grand seigneur des nombres irrationnels, vraisemblablement suivi par 1 plus racine de 5 sur 2, je rappelle, est irrationnel, un nombre.
Pi, en plus, il est transcendant, on y reviendra.
Ah ouais, et puis en plus,
mais racine de 2 est irrationnel, il peut pas s'écrire comme le rapport de deux nombres entiers.
Voilà, c'est pas
une fraction. En fait, on démontre pas ça, on démontre que le contraire ne pourrait pas être vrai.
Alors voilà, c'est parce qu'en fait, derrière, c'est une sorte d'irrationnel pour enfants, c'est l'irrationnel pour débutants, parce qu'on commence, on peut démontrer au lycée, on le démontre, l'irrationalité de racine de 2, alors que celle de pi, c'est beaucoup plus costaud. Donc, c'est un irrationnel familier, un irrationnel avec lequel on peut s'amuser. Alors, ce qu'il a de particulier, c'est que la démonstration de son irrationalité passe par un raisonnement assez particulier, qui n'a pas toujours eu bonne presse chez les mathématiciens. Descartes n'aimait pas ce type de raisonnement, c'est celui qu'on considère comme un peu le plus faible, c'est-à-dire un raisonnement dit par l'absurde. Je peux y revenir, je suis pas tout à fait d'accord avec cette manière de le présenter. C'est souvent présenté comme c'est un raisonnement classique de raisonnement dit par l'absurde. Non, le raisonnement par l'absurde, ça veut dire non pas que c'est vrai, mais que ça peut pas être faux.
Si ça peut pas être faux, c'est que c'est vrai.
C'est que c'est vrai, voilà. Mais c'est pas complètement... c'est un peu de dire la vérité
ne triomphe... Vous dites que c'est pas la même chose.
Voilà, la vérité ne triomphe jamais d'elle-même, c'est juste que ses ennemis meurent avant elle. C'est un peu ça.
Alors est-ce que ça peut se démontrer à la radio, là, que racine de 2 est irrationnelle ?
Oui, alors essayez de le montrer de manière imagée. Attendez, je réfléchis.
On suppose qu'il l'est ?
Alors on suppose qu'il l'est, mais parce qu'il y a une démonstration qui est très visuelle, il y a des preuves sans mots, alors à la radio, les preuves sans mots...
Et les preuves géométriques.
Et il y a les preuves géométriques, voilà. Alors on suppose qu'il l'est, et s'il l'est, alors ça veut dire que, pour reprendre, hein, on a du pair qui est égal à l'impair, après un raisonnement mathématique, on arrive avec du pair égal à de l'impair, c'est un peu le raisonnement d'Aristote à ce sujet. Mais donc c'est pas possible que le raisonnement que le pair soit égal à l'impair, ou alors on s'est trompé.
Donc l'hypothèse de départ est fausse, il ne peut pas s'écrire sous la forme A sur B.
Voilà.
Ouais, et B sont deux entiers.
Voilà, donc si l'hypothèse de départ est fausse, c'est que c'est la négation de l'hypothèse de départ qui est vraie, donc c'est que racine de 2 est irrationnelle. Sauf que voilà, là où j'ai une petite négociation, une petite discussion, mais je suis pas le seul à l'avoir, mais c'est que dire racine de 2 est irrationnel, c'est déjà une négation, puisque ça veut dire racine de 2 n'est pas rationnel, puisqu'irrationnel, c'est ne pas être. Donc on a déjà une négation, et en fait, on va pas prendre la négation de l'hypothèse de départ, on va tout simplement prendre l'hypothèse dont elle est la négation. À savoir, pour montrer que racine de 2 est irrationnel, on dit pas, on suppose le contraire, on suppose ce dont l'hypothèse de départ est le contraire. Voilà. Et alors, ça peut paraître comme ça un petit peu, oui, non, mais la double négation, tout le monde sait que c'est une affirmation. Moins par moins, ça fait plus. Le non-non, c'est un oui. Oui, 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 oui. Puis dès lors qu'on commence à se poser la question avec des ensembles infinis, là, ça devient un peu compliqué, le non-non. Donc c'est pour ça que... Alors, il y a déjà... c'est pour ça que l'idée que ce serait un raisonnement par l'absurde et... C'est un peu gênant. Alors moi, je vais finir et je m'étais posé la question, est-ce qu'il existe une démonstration dite directe, hein, qui ne passe pas par l'absurde de l'irrationalité de racine de 2? Donc j'en ai trouvé une. Donc voilà, j'étais content, je me dis, voilà, on est un peu sur de la terre ferme.
Elle est dans votre livre?
Non, elle n'y est pas. Elle est dans mon premier livre.
Et sur les nombres premiers?
Non, celui d'avant même, sur la preuve en mathématiques.
Vous avez écrit 3 livres?
J'ai écrit, c'est mon 3e pour Flammarion, oui.
Et le premier, c'était donc?
CQFD, 21 façons de prouver en mathématiques.
Le deuxième.
C'était donc, troisième. Oui, c'était
sur les nombres premiers.
La guerre des nombres premiers, et c'est celui-là, donc, mathématiques, pop mathématiques.
Alors en fait, il y a toutes sortes de nombres. Il y a les nombres univers, comme vous dites, c'est-à-dire des nombres dont le développement décimal contient tout de suite de chiffres donnés à l'avance.
Voilà, par exemple, ma date de naissance, mais surtout ma date de mort.
Pardon ?
Bah, si un nombre univers est par définition un nombre qui contient toute suite...
Ah oui, contient
suite,
votre date de naissance.
Il contient ma date de naissance, bien sûr, mais il contient aussi ma date de mort, mais nul ne sait où.
Ouais, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je trouve.
Oui.
Mais alors, donc un nombre rationnel ne peut pas être un nombre univers, puisque son développement décimal est périodique.
Voilà, et puis ou fini ou périodique, en tout cas.
Donc on sait qu'il existe des nombres univers.
Alors voilà.
Est-ce qu'on peut en construire ?
Oui, alors c'est étonnant, c'est que la construction d'un nombre univers est absolument simplissime. Alors je vous l'explique, vous prenez un zéro, donc là on peut le refaire avec la feuille A4 de l'expérience de tout à l'heure. Vous prenez un zéro, virgule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Donc vous allez passer en revue tous les nombres.
On va jusqu'à 9 et après on écrit 10.
Et après 10, 11, voilà, 13, 14, 15, 16, et vous passez en revue tous les nombres entiers à l'infini. Et ce nombre contient toutes les séquences possibles que vous, dont vous voulez savoir si elles sont là. Elles y sont, hein, donc... Votre date de naissance, Monsieur Klein, elle est dans le nombre dans celui qu'on vient de nommer, qui s'appelle le nombre de Champernon.
Et alors, est-ce qu'il, quand on prend un nombre quelconque, est-ce qu'il est facile de démontrer qu'il est univers ou pas ?
Non, c'est très compliqué. C'est ça qui est, c'est pas simple du tout. Et la question de savoir
alors, est-ce que pi est univers ?
Voilà, c'est la question. Bah, on a, c'est pas sûr.
On sait pas.
Non, on sait pas. On n'a pas réussi à le montrer jusqu'à présent. On incline à penser que oui, mais c'est pas évident. Donc, on n'a pas réussi à le montrer. C'est bien de voir que autant construire un nombre univers, parce que on a un concept mathématique et on se dit voilà, un nombre univers, c'est ça, la définition elle est très simple. Mais cela prouve pas qu'il existe des nombres univers, de les définir. Et c'est bien le jeu entre nommer, exister. Il s'avère que là, on vient d'en construire un et qu'il est extrêmement simple à appréhender. Mais une fois qu'on est là, il faut développer les outils. Alors, pi est-il un nombre univers ? C'est pas compliqué, c'est pas simple.
Mais pour le savoir, il faudrait connaître toutes les décimales de pi, c'est ça ?
Bah, c'est bien le problème, c'est qu'on peut pas. Donc, il va falloir trouver un expédient, un moyen de connaître l'infini sans le connaître.
Parce que j'ai lu, enfin, j'ai compris, j'ai appris en vous lisant, Yann Prado, que on a pu calculer à la main 700 décimales de pi. Qu'avec des machines, des ordinateurs, on a pu aller bien au-delà.
Bien au-delà, voilà.
Est-ce que on espère un jour aller encore bien plus au-delà ?
Oui, on bat régulièrement des records. Alors déjà, pour revenir, le premier calcul, le dernier calcul à la main, j'allais dire le dernier humain qui a calculé, c'était un Anglais et qui a consacré entre 10 et 20 ans de sa vie à faire ça. Et il s'avère que le pauvre s'est planté, qu'elles sont fausses, les décimales.
Celle qui est écrite au Palais de la Découverte.
C'est celle qui, jusqu'à la fin de la guerre, était écrite, il y avait, alors, je me permettre, vous allez voir. Donc, était écrite dans cette salle dédiée aux mathématiques, où il y avait, ils sont toujours, hein, les décimales de pi. Alors, comme pi est la 16e lettre de l'alphabet, on peut dire que cette salle, c'est la chapelle Sixtine des mathématiques. Voilà. Il fallait que je la place.
Et donc, c'est fait.
Donc c'est fait. Et donc, une partie de ces décimales était fausse puisqu'elles étaient basées sur ce calcul de William Schenck. Et elles ont été corrigées depuis. Alors, pour revenir à votre question première, est-ce qu'on peut, donc, puisqu'il y a une infinité et qu'il n'y a aucune répétition, se lancer dans le calcul de décimales de pi doit avoir un intérêt, une utilité. Alors oui, ça en a plein. Déjà, premier intérêt, c'est que ça n'en a pas. Deuxième intérêt, c'est que ça permet de tester des algorithmes et d'augmenter la croissance, la convergence des algorithmes, d'avoir des algorithmes qui sont convergents de plus en plus rapidement et d'accélérer la convergence de ces algorithmes. Ensuite, ça permet de tester, je me souviens plus de quand, une année où, les décimales connues de pi permettent de tester les microprocesseurs. Parce qu'effectivement, faire un microprocesseur, c'est une chose, mais il faut savoir s'il marche, et donc il suffit de lui demander de calculer les décimales de pi, et on compare. Donc ça a aussi l'intérêt. Après, il y a effectivement le fait d'avoir des machines de plus en plus rapides, et des algorithmes de plus en plus rapides, et comment peut-on mesurer l'augmentation de vitesse, hein, de calcul, de convergence des algorithmes, les faire mouliner sur pi c'est un bon exercice. Donc on est, je sais plus combien j'ai écrit, je crois qu'on est à 130, 140, 150 milliards de décimales.
Yann Prado, vous avez aussi un chapitre passionnant sur la quadrature du cercle.
La fameuse.
Alors, carré un cercle, ça consiste à construire un carré ayant la même surface que lui. C'est évidemment tout à fait possible, sauf si on tient compte de la contrainte que les savants de l'Antiquité imposaient à cet exercice. Il ne fallait utiliser qu'une règle et un compas.
Voilà.
Problème de géométrie. Alors, on a montré seulement en 1882 que c'était impossible. Ça a été démontré par un mathématicien allemand, Karl-Louis Ferdinand von Lindemann, qui a démontré que pi était transcendant.
Après qu'on ait monté qu'il soit irrationnel. Donc c'est en deux temps.
Il y a un siècle d'écart entre la démonstration.
C'est ça, entre les deux. Oui, c'est Lambert qui a montré l'irrationalité et Lindemann sa transcendance. Et il y a quasi un siècle.
Alors qu'est-ce que c'est qu'un nombre transcendant? Alors, et c'est... en quoi le fait que pi soit transcendant explique que la quadrature du cercle est un calcul impossible? D'ailleurs, l'anagramme de la quadrature du cercle, c'est calcul rare du détraqué.
Ah, bah, je la note. Calcul rare du détraqué. Ouais, ça va très très bien. Il aurait fallu qu'on commence par là pour que cesse le problème de la quadrature du cercle. Alors, être transcendant, cela veut dire, pour revenir à notre racine de deux, notre irrationnel familier, racine de deux, il est solution d'une équation du second degré à coefficient rationnel. C'est-à-dire, il est solution de l'équation x au carré moins racine de 2 égale 0. Donc, il y a deux racines, et racine de 2 en est une. Et pi est-il coefficient d'une équation du même ordre, ou est-il racine d'un polynôme à coefficient entier ou rationnel? Ben, la réponse est non, et c'est ça qu'on le qualifie de transcendant. Or, cela rend impossible la construction à la règle et au compas, la résolution à la règle et au compas de la quadrature du cercle, parce qu'en fait c'est une équivalence. On peut construire un nombre irrationnel à la règle et au compas. Racine de 2 en est un exemple, puisque c'est la diagonale d'un carré de côté 1, et que c'est facile à construire à la règle et au compas, donc on peut le construire. Mais en fait, je crois que c'est Gauss, si je me trompe pas, montre que si il est constructible à la règle au compas, il peut pas être transcendant, il est algébrique.
Alors vous écrivez, Yann Prado, dans votre livre cette phrase qui m'a interrogé. Vous écrivez: ce qu'il y a de bien avec les mathématiques, c'est que l'on se comprend.
Surtout avec les mathématiciens.
Vous êtes sûr?
Alors non, il y a quelque chose. C'est une expérience que j'ai vécue. C'était à la remise d'un prix pour le précédent livre, et on était plein de mathématiciens. Donc c'était pour Tangente, le magazine des mathématiques, et on était plein de mathématiciens. Et quand on est entre mathématiciens, on se comprend. Voilà.
C'est... Toujours.
Non, mais on se parle.
Ok, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
Mais par exemple, il y a une question qu'on se pose souvent, enfin que moi je me posais quand j'étais collégiens, c'est comment est-ce que les Romains faisaient leurs additions et surtout leurs multiplications avec le système de numérotation qu'ils avaient choisi?
C'est l'enfer, c'est extrêmement difficile. En fait, ils avaient des abacs qui les faisaient faire une fois pour toutes, et ils les faisaient pas, mais jusqu'à, il y a un livre qui est sorti il y a quelques temps, mais jusqu'au système des chiffres arabes, on faisait pas les calculs, on retenait les résultats par cœur. Donc il y a des techniques, j'avoue que je maîtrise pas la technique de la multiplication chiffres romains. J'en ai pas saisi l'importance. Mais en fait, une fois que le résultat est posé, on le note dans une abaque et on l'apprend par cœur.
Alors ce qui est remarquable, Yann Prado, dans votre livre, c'est qu'en fait vous parlez de tout, de tous les sujets quasiment.
Mais j'aime bien cette
idée. Il manque
quand même
le boson de Higgs.
Ah oui,
ouais. Alors le. Il n'y a rien sur le boson de Higgs.
Comment vous écrivez X?
H. Ah voilà.
Parce que sinon on peut parler du boson de Higgs.
Vous, c'est le boson de Higgs, évidemment.
Oui.
Et par exemple, vous avez un chapitre sur la chanson des Beatles, la dernière qu'ils aient composée, Let It Be.
C'est la chanson qui signe que c'est la fin du groupe.
Voilà.
Oui.
Dont on voit pas très bien ce qu'elle vient faire dans un livre de mathématiques, et pourtant, vous expliquez parfaitement ce qu'elle a de spécial.
Alors celle-ci, ça aurait pu être une autre. Je sais que j'aurais pu en prendre une dont l'homonymie avec le titre vous aurait convenu. C'est Let It Bleed.
Oui, ça m'aurait davantage. Enfin non, c'est bien.
C'est bien. Mais voilà, je crois que c'est une partition du monde, un Stone ou Beatles. C'est comme deux chevaux ou quatre ailes. Alors. Revenons à Let It Be. En fait, il s'avère que Let It Be, vous faites l'expérience, vous commencez à la chantonner, et immédiatement, quelqu'un reprend. S'il y a une mélodie, alors on va dire oui, c'est le talent des Beatles, certes. Mais sous la mélodie, il y a une harmonie, c'est-à-dire il y a des accords qui s'enchaînent. Et cet enchaînement d'accords est quelque chose d'extrêmement, comment dire, on l'a dans l'oreille. Parce que c'est un enchaînement facile, simple, courant, étudié et surtout utilisé par les musiciens. Alors ma question c'était, qu'est-ce qui fait de cet enchaînement d'accords, qu'est-ce qui lui donne cette familiarité, cette facilité, et qui entraîne qu'on le retrouve dans énormément de chansons, dont les Titi Bee. Alors la solution, elle nous vient de Euler, Léonard Euler, le grand mathématicien suisse, j'allais dire le grand suisse, qui a proposé, hein, la musique a, vous savez, enfin en tous les cas le tempérament est cyclique, au bout de 12 demi-tons on recommence. Donc Euler a proposé de représenter spatialement en fait la musique et les accords. Les accords c'est trois sons. On peut le faire à quatre, mais et en fait, il a proposé une solution mathématique qui consiste à paver le plan d'une manière particulière. Alors donc vous imaginez, je vais essayer le décrire à la radio. Donc vous prenez des lignes, des droites horizontales sur lesquelles vous placez, bon, donc à intervalles réguliers, les notes par cycle de quinte. Donc do, sol, alors je vais pas dire de bêtises. Faut que je ferme les yeux. Donc do, sol, ré, la, mi, si, fa dièse, etc., etc. Donc là c'est le cycle de quinte. Et de manière oblique d'autres droites qui passent par ces notes et sur lesquelles vous placez les notes en tierce mineure. Donc évidemment, ce sont des découpages réguliers de l'octave, donc c'est cyclique. Et c'est infini, puisque une fois que ça recommence.
Mais est-ce que John Lennon et Paul McCartney, en écrivant cette chanson, étaient conscients de ce que vous dites ?
Alors, je pense pas, mais cela tend à vouloir expliquer, mais un petit peu, hein, c'est un peu l'argument du nombre d'or. Est-ce que les gens étaient conscients ou du 5/8e? Est-ce que l'artiste est conscient qu'il y a des mathématiques dans sa démarche artistique? Que, en tous les cas, c'est pas tant de dire il y a une sorte de construction mathématique sous son œuvre d'art. C'est qu'il y a un point de vue, on peut avoir un point de vue mathématique sur le travail qu'il propose, mais cela n'est pas en conflit avec le point de vue artistique. Donc pour revenir à la question Lennon et McCartney, vraisemblablement non. Et à la limite, on s'en fiche. Enfin, en tous les cas, de savoir s'ils l'ont su ou s'ils l'ont pas su.
Mais Paul McCartney, qui est toujours vivant, serait peut-être intéressé de le savoir.
Oui, si vous avez son numéro, on peut peut-être lui passer un coup de fil, on va lui demander à Sir Paul McCartney. Oui, bien sûr. Parce que ça explique, ce que ça tend à expliquer, c'est qu'il y a des formes, des enchaînements d'accords, ce qu'on appelle des cadences, lesquelles sont des archétypes. Et pour revenir sur le tango, par exemple, la fin du tango, c'est une forme extrêmement carrée que tout le monde a dans l'oreille, le fameux pan-pan. Ce truc-là, c'est à la limite, vous faites un tango, si vous composez un morceau, c'est pas un tango, vous mettez ça à la fin, on va se dire c'est un tango. C'est quasiment une signature. Donc, il doit y avoir des règles harmoniques qui font que certains enchaînements d'accords sonnent naturellement, ou en tous les cas sonnent mieux à l'oreille que d'autres.
Parle à notre cerveau.
Voilà, ça nous parle. Alors, ce que l'on voit avec l'utilisation du tonnet, c'est que l'enchaînement des accords de Let It Be suit un principe de moindre effort. C'est-à-dire qu'on passe d'un accord à l'autre en changeant une note. Donc il y a deux notes qui restent dans l'accord. Et évidemment, si on sur les trois, il n'y en a qu'une qui bouge, il y a comme ça un principe de moindre dépense d'énergie dans la composition. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on commence à comprendre que ces enchaînements sont des enchaînements extrêmement simples pour cette raison-là.
Yann Prado, j'ai appris en vous lisant ce qu'est un Kilo Girl.
Alors c'est... Alors déjà, ça n'a rien de... sexiste.
Non, non.
Voilà, je tiens à le dire. Alors, un kilogirl, c'est une unité de mesure qui est née. Alors, il faut se dire que malheureusement, la mathématique, ça sert à tout, y compris aux choses dont on aimerait, auxquelles elles ne servent pas, c'est-à-dire ça sert à faire la guerre. Et notamment quand on s'envoie des bombes sur la tête du voisin, dont le seul tort est d'être... Enfin, ça, sur la tête de celui d'en face, dont le seul tort est d'être en face et pas de notre côté. Il faut, afin d'économiser, de pas en envoyer à côté, il faut pouvoir calculer au mieux la courbe, la trajectoire de la bombe. Et pour calculer, il faut calculer au mieux. Alors c'est des problèmes mathématiques pas simples, hein, parce qu'il y a plusieurs, il y a les conditions initiales, l'angle du canon.
On fait pas la guerre dans le vide.
Voilà, on fait pas la guerre dans le vide. Donc il y a la condition initiale, il y a la vitesse de sortie de l'obus, l'angle, puis il y a la force du vent, il y a la résistance de l'air, la force du vent. Tout ça, ce sont des choses à prendre en compte qui font que ce sont des équations difficiles à résoudre, des équations différentielles difficiles à résoudre. Donc l'idée encore, pour reprendre comme pour les chiffres romains, c'est de faire les calculs une bonne fois pour toutes. Et puis une fois qu'on les a, on a des tables de calculs balistiques, hein, qui nous disent, voilà, si vous avez le canon à cet angle-là, si l'air est dans ce sens-là et si le capitaine a bien mangé, l'obus devrait arriver là. C'est approximatif, mais ça marche plutôt pas mal. Sauf que les calculs, faut les faire. Faut quelqu'un pour les faire. Or, qui les a fait? Au sortir de la guerre de sécession aux États-Unis, il s'est avéré qu'il y avait énormément de femmes qui étaient déjà au travail dans ce type de calculatoire ou de laboratoire de calcul. Déjà parce que les hommes étaient pris ailleurs. Et donc, ce sont elles qui se sont formées, qui se sont lancées dans le calcul balistique. Et comme elles étaient là, au sortir de la guerre, elles sont restées là. Il y a donc eu tout un savoir et toute une formation qui s'est de calculatrice, mais là au sens vraiment premier du terme, c'est-à-dire des femmes qui calculent. Et quand on a commencé à vouloir un petit peu, c'était une blague, hein, à mesurer le temps qu'il faut pour effectuer un calcul balistique, on a proposé que 1000 heures de calcul, ça soit représenté par 1 kilogirl.
C'est une sorte d'unité d'énergie.
C'est une unité d'énergie, voilà. C'est un temps de calcul.
C'est 1000 heures de calcul.
1000 heures de calcul pour une personne.
Une femme, en l'occurrence.
Voilà.
Peut faire pour calculer les trajectoires.
Voilà, des trajectoires. Donc,
des bombes dans l'atmosphère.
Alors, si vous mettez évidemment 10 personnes, hein, vous divisez le kilogramme par 10.
Il y a beaucoup de femmes qui ont joué des rôles très importants dans l'histoire des mathématiques, notamment dans l'histoire de l'informatique.
Oui.
Vous parlez évidemment d'Ada Lovelace.
Qui est la première informaticienne. C'est même, on devrait dire, le premier informaticien est une informaticienne parce que, on associe aujourd'hui un petit peu derrière les ordinateurs le côté geek, c'est une affaire de monsieur. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui étaient présentes en informatique, à commencer par Ada Lovelace, qui a écrit le premier programme d'informatique avant même que l'ordinateur n'existe, ne soit réalisé. C'était une idée, il y a les conceptions qui étaient proposées par Babbage.
Et qu'elle a rencontré à l'âge de 17 ans.
Qu'elle a rencontré, et alors elle était chargée de traduire un article présentant la machine de Babbage, et Babbage lui-même lui a proposé d'étendre.
Elle l'a complété.
Voilà, elle était absolument, elle était formée aux mathématiques.
Vous connaissez l'anagramme de Lovelace?
Pardon?
L'anagramme de Lovelace.
Non.
La Véloce.
C'est joli, c'est magnifique.
Alors Babbage, justement, va écrire à son propos « Cette enchanteresse des nombres a jeté son sort magique autour de la plus abstraite des sciences et l'a saisie avec une force que peu d'intellect masculin, dans notre pays au moins, aurait pu exercer. » Bel hommage.
C'est un bel hommage pour une vie qui a été... Ada Lovelace est morte malheureusement assez jeune. C'était la fille, signalons au passage, de Lord Byron, hein, le poète anglais, à la vie dissolue, la fille unique et officielle. Et donc, en tous les cas, son programme est considéré comme le premier programme informatique de l'histoire. Et en hommage à Ada Lovelace, le département de la défense américain a nommé un langage informatique Ada.
Comment vous expliquez, Yann Prado, vous qui êtes professeur, le fait qu'il y ait de moins en moins de filles qui s'intéressent aux mathématiques, en tout cas qui entrent dans les carrières mathématiques?
Alors, est-ce qu'il y en a de moins en moins?
Qui est une sorte de singularité française.
Est-ce qu'il y en a de moins en moins ou est-ce qu'il y en a peu? C'est parce que moins en moins semble à dire qu'il y en a eu plus avant et que maintenant il y en a moins, bon, ou est-ce qu'il n'y en a jamais eu beaucoup?
Par exemple, le nombre de femmes qui entrent à Polytechnique baisse.
Oui, oui, oui. Alors, comment je l'explique? Moi, j'ai j'ai l'impression que c'est quelque chose de très compliqué, qui m'échappe un peu, j'avoue. Hein. Mais la question que je me pose, c'est par rapport à... Au moment du choix, c'est-à-dire à la fin de la seconde, hein, c'est à ce moment-là que le choix se fait très souvent. En tous les cas, il y a un choix, il faut qu'on dise on va prendre telle spécialité, telle filière. Et qu'au moment du choix, ce que je vois en tous les cas avec moi, mon expérience de professeur, c'est que les élèves qui arrivent en seconde sont extrêmement chargés par la question des mathématiques, c'est-à-dire la famille d'une manière ou d'une autre. Les parents disent, répètent, il faut être bon en maths, ça ouvre toutes les portes, à commencer par celles qui ne permettent de plus faire de maths. Donc il faut être bon en maths, donc les élèves arrivent très très chargés par ça, ils ont les épaules très lourdes de ces injonctions, de ces... Et il se peut...
Mais ça vaut pour les garçons et pour les filles.
Oui, justement, je vais y venir. Il se peut que la manière dont un garçon et dont une fille se positionnent dans la constellation familiale, être la fille de, être le fils de, c'est pas la même chose. Et que si cela doit s'incarner par la mathématique, alors on obtient des réponses différentes. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour répondre à la question que vous posez, il faut peut-être aussi interroger les constellations familiales, la manière dont on s'inscrit dans une lignée. C'est auquel cas on est très en dehors de l'école, mais c'est peut-être, ici aussi, il y a peut-être une question. Voilà, c'est ce que j'ai fini par me dire d'expérience.
Vous parlez à la fin de votre livre, Yann Prado, d'un personnage dont j'ignorais l'existence, qui, je crois que je ne suis pas le seul, qui s'appelle Horonce Fine.
Oui, qui c'était? Alors c'est notre maître à tous, cher Étienne, c'est le premier
vulgarisateur,
on dirait médiateur scientifique. Et alors Horonce Fine, sa grande discrétion historique est symbolisée par le square Horonce Fine, dans tous les cas à Paris, qui lui est rendu en hommage, et c'est un square dans le 5e arrondissement, à l'angle de la rue Laumont et de la rue...
Près de l'école normale supérieure.
Voilà, c'est près de l'école normale supérieure, mais c'est dans la rue Laumont, au bout de la rue Laumont. C'est un square inaccessible au public, d'ailleurs. C'est une sorte de réserve de biodiversité en plein 5e arrondissement, près de l'ENS. Et on peut le voir, il est tout petit, il fait quelques mètres carrés, et il est nommé du nom de Horonce Fine.
C'est quel siècle?
C'est le 15e. Me semble-t-il.
Et alors pourquoi est-ce que vous dites que c'est le père historique des vulgarisateurs?
C'est le père parce que il a beaucoup beaucoup écrit pour que l'on fasse des mathématiques. Il a initié la mathématique française d'une certaine manière avec lui. Hein, les descendants, nos grands mathématiciens sont tous des descendants d'Horonce Fine. Mais donc il a été celui qui a vu, en tous les cas, qui a vu en la mathématique le fait de devoir une discipline extrêmement importante. Ensuite, il est à l'origine de la première carte de France. Donc, c'est aussi un géographe, mais les mathématiciens étaient souvent des géographes. Et il a milité pour que la mathématique soit enseignée. Donc, de cette manière-là, le fait de vouloir populariser la mathématique, tout comme Descartes a écrit en français pour que son discours de la méthode soit rendu le plus populaire possible, au sens premier du terme, hein, que tout le monde puisse y avoir accès sans avoir à maîtriser le latin savant. Donc, c'est mon hommage à Horonce Fine.
Dont vous êtes le digne héritier.
J'essaye d'en être l'héritier et j'essaye d'en être digne, oui.
Merci en tout cas à Yann Prado d'avoir montré que la danse et les nombres sont capables d'engendrer les plus nobles transes de l'âme. Et si je dis ça, c'est parce que la danse et les nombres ont pour anagramme « noble transe de l'âme ». Anagramme trouvé par Olivier Garcia, que je remercie au passage. Merci d'être venu nous rendre visite à la conversation scientifique et d'avoir montré qu'on peut en effet faire des mathématiques à la radio. Je recommande très chaleureusement la lecture de votre livre qui vient de paraître aux éditions Flammarion et qui s'intitule « Les maths sont un tango à trois temps ».
Merci Étienne, merci France Culture.
C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, avec la réalisation et la mise en onde Souad Boukorsa.